Chapitre 14. La boum. Il avait sombré dans la nuit, et au moment même où il le sut, il cessa de le savoir. Jack London. 1. Prise par une sorte de fièvre, Fanny termina son récit au bord du délire. Elle avait quitté les marches taillées dans la pierre et se tenait debout, au milieu de l'église, toujours à deux doigts de perdre l'équilibre. Chancelante entre les bancs en bois, elle me faisait penser à la dernière passagère d'un bateau en plein naufrage. Moi, je n'étais guère plus vaillant. Mon souffle s'était presque arrêté. J'avais encaissé les révélations comme autant du percute qui m'avait laissé à deux doigts du chaos et du chaos. Mon esprit était saturé, incapable de remettre les événements en perspective. Finca assassinée par Fanny, avec la complicité active de ma mère, pour faire disparaître le corps. Je ne refusais pas la vérité, mais elle ne me semblait pas correspondre à ce que j'avais toujours connu du caractère de ma mère et de celui de mon ami. « Attends, Fanny !» La jeune femme venait de se ruer hors de l'église. Une seconde plus tôt, elle paraissait au bord de l'évanouissement, et là, elle détalait comme si sa vie en dépendait. « Merde !» Le temps de trébucher dans l'escalier et de sortir à mon tour sur le parvis, Fanny était déjà loin. Je lui courus après, mais je m'étais violemment tordu la cheville. Elle avait trop d'avance et était plus rapide que moi. Je traversai le village en claudiquant et descendis la pente des Vachettes le plus vite possible. Je retrouvai ma voiture avec une contravention que je froissais, m'installai au volant et hésitai sur la marche à suivre. Ma mère. Il fallait que je parle à ma mère. Elle était la seule à pouvoir me confirmer ce que m'avait raconté Fanny et à m'aider à démêler le vrai du faux. Je rallumai mon portable, que j'avais éteint dans l'église. Pas de nouveau message de mon père, mais un SMS de Maxime me demandant de le rappeler. Je m'exécutai en mettant le contact. « Il faut qu'on se parle, Thomas. J'ai découvert quelque chose de très grave qui... » Je sentais de l'émotion dans sa voix. Pas forcément de la peur, mais une vulnérabilité non feinte. « Dis-moi. Pas au téléphone. On se retrouve au Nid d'Aigle plus tard. Je viens d'arriver à la soirée de Saint-Ex, il faut que je fasse un peu campagne. » Sur le trajet, dans le calme de l'habitacle de la Mercedes, j'essayais de remettre de l'ordre dans mes pensées. Le samedi 19 décembre 1992, sur le campus du lycée Saint-Exupéry, il y aurait donc eu deux meurtres, à quelques heures d'intervalle. D'abord celui d'Alexis Clément, puis celui de Vinca. Deux meurtres dont la concomitance aurait permis à ma mère et à Francis de monter un scénario imparable pour nous protéger tous les trois. Maxime, Fanny et moi. Nous protéger en faisant d'abord disparaître les deux corps, puis, et là était le véritable coup de génie, en faisant basculer la scène de crime de la Côte d'Azur vers Paris. Ce scénario avait quelque chose de romanesque. L'alliance des parents, prêts à prendre tous les risques pour sauver les jeunes adultes que nous étions alors. Mais mon cerveau le refusait parce qu'il actait la mort de Vinca. En repensant à ce que m'avait dit Fanny, je décidai d'appeler un médecin pour vérifier un point qui m'avait intrigué. J'essayai de téléphoner à mon généraliste à New York, mais je n'avais que le numéro de son cabinet, qui n'était pas ouvert le week-end. Faute d'avoir d'autres contacts, je me résolus à joindre mon frère. Dire qu'on s'appelait peu était un euphémisme. C'était intimidant d'être le frère d'un héros. Chaque fois que je lui parlais, j'avais l'impression que je lui volais un temps qu'il aurait pu consacrer à soigner des enfants. Et cela donnait à nos conversations un drôle de ton. « Salut, frangin » lança-t-il en décrochant. Comme toujours, son enthousiasme, loin d'être communicatif, me bouffait de l'énergie. « Salut, Jérôme. Comment va la vie ?»« T'emmerde pas avec le small talk, Thomas. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. » Au moins, aujourd'hui, il me facilitait la tâche. « J'ai vu maman cet après-midi. T'étais au courant pour son infarctus ?»«
Bien sûr.
Pourquoi tu m'as pas prévenu ?»«
C'est elle qui m'a demandé de pas le faire. Elle voulait pas t'inquiéter.
Tu parles. »«
Le Rohypnol, tu connais ?»«
Ouais, bien sûr.
C'est une saloperie, mais c'est plus vraiment prescrit aujourd'hui. T'en as déjà pris ? Non ? Pourquoi tu veux savoir ça ? C'est pour un roman que je suis en train d'écrire. Une histoire qui se passe dans les années 1990. Combien de comprimés il faudrait avaler pour que la prise soit mortelle ? J'en sais rien. Ça dépend du dosage. La plupart des cachetons contenaient 1 mg de flunitrazépam. Donc, je dirais que ça dépend des organismes. Tu m'aides pas beaucoup. Kurt Cobain en avait pris pour tenter de se suicider. Croyais qu'il s'était tiré une balle dans la tête ? Je te parle d'une tentative de suicide avortée, quelques mois avant. À l'époque, on avait retrouvé une cinquantaine de cachets dans son estomac. Fanny avait parlé d'une poignée de cachets. On devait être loin des 50. Et si tu en prends une quinzaine ? Tu seras salement shooté. Peut-être proche du coma, surtout si tu le mélanges avec de l'alcool. Mais encore une fois, ça dépend du dosage. Dans les années 1990, le laboratoire qu'il fabriquait commercialisait également des pilules à 2 mg. Dans ce cas, 15 pilules et du Jim Beam peuvent effectivement t'envoyer au ciel. Retour à la case départ. Une question que je n'avais pas prévue traversa mon esprit. T'aurais connu un médecin cannois qui exerçait il y a une vingtaine d'années, un certain Frédéric Rubens. Docteur Mabuse. Tout le monde l'a connu dans le coin, et pas en bien. Mabuse, c'était son surnom. Il en avait d'autres, dit Jérôme en ricanant. Fredo le toxico, Fred Kruger le dealer, à la fois junkie lui-même et fournisseur. Il a trempé dans tous les trafics possibles et imaginables. Dopage, exercice illégal de la médecine, trafic d'ordonnances. Il a été radié de l'ordre des médecins. Ouais, mais pas assez tôt, à mon avis. Tu sais s'il vit toujours sur la côte ? Avec ce qui s'enfilait, il a pas fait de vieux os. Rubin s'est mort lorsque j'étais encore étudiant. C'est un thriller médical, ton prochain bouquin ? 2. Il faisait presque nuit lorsque j'arrivais au lycée. La barrière automatique avait été bloquée en position ouverte. Il fallait juste se signaler au gardien, qui vérifiait si votre nom était bien inscrit sur sa liste. Je n'étais inscrit nulle part. Mais le type m'avait vu quelques heures plus tôt. Il me reconnut et me laissa entrer en me demandant de me garer sur le parking aménagé près du lac. La nuit, le site était magnifique. Plus unifié et cohérent que sous le soleil. Balayé par le mistral, le ciel était clair et rempli d'étoiles. Depuis le parking, des photophores, des flambeaux et des guirlandes lumineuses donnaient au campus un côté enchanteur et guidaient les visiteurs vers les réjouissances. Il y avait plusieurs fêtes selon les promotions. Celle qui avait lieu dans le gymnase accueillait les promos des années 1990 à 1995. En arrivant dans la salle, je fus pris d'une sorte de malaise. On était à la limite de la soirée déguisée dont le thème aurait pu être « Vos pires tenues des années 1990 ». Les quadras avaient ressorti de leurs placards, les converses, les 501 troués à taille haute, les bombers Scott et les chemises en tartan à gros carreaux. Les plus sportifs portaient des pantalons baggy, des survêtements taquini et des doudounes chevignon. J'aperçus Maxime de loin, vêtu d'un maillot des Chicago Bulls. Les gens s'agglutinaient autour de lui, comme s'il était déjà député. Le nom de Macron était sur toutes les lèvres. Dans cette assemblée d'entrepreneurs, de professions libérales et de cadres, on n'en revenait toujours pas de savoir que le pays était désormais gouverné par un président qui avait moins de 40 ans, parlait anglais, connaissait le fonctionnement de l'économie et affichait de manière pragmatique sa volonté de dépasser les vieux clivages idéologiques. Si quelque chose devait un jour changer dans ce pays, ce serait maintenant ou ce ne serait jamais. Lorsque Maxime me repéra, il me fit un signe de la main. 10 minutes. J'acquiesçai de la tête et en attendant, je me fondis dans la masse. Je traversai la salle jusqu'au buffet qui, de façon ironique, se trouvait collé au mur où depuis 25 ans pourrissaient les cadavres d'Alexis Clément et de Vinca. L'ouvrage était décoré de guirlandes et de vieux posters. Comme ce matin, je ne ressentis aucun malaise particulier. Pas de mauvaises ondes. Mais je savais que mon cerveau mettait en place toutes les défenses possibles pour refuser la mort de Vinca.
« Je vous sers quelque chose, monsieur ?»
Dieu merci, cette fois, il y avait de l'alcool. Il y avait même un barman qui préparait des cocktails à la demande. « Vous pouvez me faire une caipirinha ?»«
Avec plaisir. »«
Faites-en deux !»
lança une voix derrière moi. Je me retournai et reconnus Olivier Mons, le mari de Maxime, qui dirigeait la médiathèque municipale d'Antibes. Je le félicitai pour la gentillesse de ses deux petites filles et nous évoquâmes quelques anecdotes du bon vieux temps qui n'était pas forcément si bon. Alors que je me souvenais de lui comme d'un intello poseur, il se révéla charmant et plein d'humour. Au bout de 2 minutes de conversation, il me confia néanmoins qu'il sentait Maxime très inquiet depuis quelques jours. Il était certain qu'il lui cachait la cause de ses tourments et certain également que j'étais au courant de quelque chose. Je décidai d'être à moitié franc et lui dis que, dans le contexte des prochaines élections, certains ennemis de Maxime essayaient de ressortir les cadavres du placard pour le dissuader d'être candidat. Je restais dans le flou, évoquant avec distance le prix à payer pour faire de la politique. Je lui promis que j'étais là pour l'aider et que ses menaces ne seraient bientôt plus qu'un lointain souvenir. Et Olivier me crut. C'était l'une des bizarreries de la vie. Alors que j'étais d'un naturel inquiet, j'avais ce pouvoir étrange d'être capable de rassurer les gens. Le barman nous servit nos boissons, et après avoir trinqué, nous nous amusâmes à regarder les tenues des invités. De ce côté-là, comme moi, Olivier était resté sobre. On ne pouvait pas en dire autant de tout le monde. Une bonne partie des femmes avaient visiblement la nostalgie de l'époque où les tops laissaient entrevoir le nombril. D'autres portaient des shorts en jean, des robes à bretelles sur des t-shirts, des colliers ras du cou ou des bandanas entortillés aux anses de leur sac. Heureusement, personne n'avait osé les plateformes Buffalo à semelles compensées. Quel était le sens de tout ça? Simplement s'amuser ou essayer de retenir quelque chose de sa jeunesse perdue? Nous commandâmes 2 autres cocktails. Et cette fois, n'ayez pas la main trop légère sur la cachaça, réclamai-je. Le serveur me prit au mot et nous prépara une boisson très corsée. Je saluai Olivier et, mon cocktail à la main, je rejoignis la terrasse sur laquelle s'étaient rassemblés les fumeurs.